بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شافع الإسلام de ce verset de la sourate Ali Imran. Allah Azza wa Jal nous rappelle un moment, une étape de la bataille de Uhud. C'est une étape qui se déroule après la bataille de Uhud. Il y a eu, après la bataille de Uhud, un moment d'incertitude où la nouvelle s'était répandue que Abu Sufyan revenait avec d'autres personnes, avec une autre armée, ou alors avec les cavaliers qui étaient présents. C'est-à-dire Abu Sufyan préparait une seconde attaque contre les musulmans. Et donc cette rumeur s'était répandue au sein des sahaba, des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui avaient déjà été éprouvés par les événements de la bataille d'Uhud. Et ce fut là une épreuve. Une épreuve, et c'est quoi une épreuve? C'est une situation qu'Allah va créer. C'est une situation qu'Allah a décrétée avant même la naissance de chaque personne qui va la vivre. Ça c'est extraordinaire, ça, le taqdir. L'épreuve, c'est une situation qu'Allah a décrétée avant même que tu ne vois le jour. Et qu'Allah te l'a prédestinée. Et qu'Allah Azza wa Jal décide que cette épreuve va t'atteindre à un moment précis de ta vie. Et l'épreuve va t'atteindre à un moment où tu auras besoin de te rattacher à quelque chose. Soit tu te rattaches à ton Seigneur, tu appliques « wa iyyaka nasta'in » ou alors on s'en remet aux asbab, aux gens, aux créatures. Ou alors on se contente d'avoir peur, où on se contente de fuir. C'est-à-dire la fuite, c'est la concrétisation de la peur. Ou alors, on se désole et on désespère de cette situation. Et au pire, quand une personne est désespérée de la situation, il ne s'en remet pas à Allah. Non, bien au contraire, il remet en cause, na'oudhu billah, la décision d'Allah, la sagesse d'Allah et la bonté d'Allah, na'oudhu billah. Ça, c'est la pire des situations où l'épreuve t'éloigne d'Allah, comme un vent qui souffle et qui éloigne un objet ou un bateau ou peu importe. Alors que d'autres personnes, dans la tempête, ils restent fermes. Imaginez ce bateau qui, pendant une tempête, est resté ferme. Le bateau a pu naviguer correctement, l'équipage est resté soudé. Ben, quand la tempête est passée et qu'il y a le calme plat, est-ce que à ce moment-là, vous pensez que ce bateau il va aller dans tous les sens? Il est resté ferme dans les moments les plus difficiles de la tempête. Donc, ça a été pour lui une tarbiya, une éducation. Il y a une grande sagesse d'Allah Azza wa Jal dans les ibtilas, dans les épreuves. Mais nous n'aimons pas les épreuves. C'est comme ça. Et il ne faut pas demander non plus être éprouvé. Attention, l'épreuve apporte énormément de bienfaits spirituels et psychologiques à l'homme. Ça te fait de toi un mu'min, qawiyul iman, avec une foi rude à toute épreuve, mais ça fait de toi également un homme fort psychologiquement, parce que c'est quelqu'un qui a su affronter ses peurs, c'est quelqu'un qui a pu canaliser son angoisse, le côté animal un petit peu qui te pousse à la fuite. Non, tu t'en remets à ton Seigneur et tu as confiance en son destin et tu marches, tu mets tes pieds sur une surface qui est invisible mais qui t'a été promis par Allah. Allah te dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Allah Azza wa Jal te dit نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Les prophètes عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ nous enseignaient cette invocation et le mu'min se rattache à ces invocations même si le monde entier est ligué contre toi. Mais tu sais que tu suis le salat al-mustaqim et qu'en suivant le droit chemin de cette façon tu suis la sunna des anbiya عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ. Assurément ce mu'min là à un moment donné il voit le bout du tunnel. Et voir le bout du tunnel, c'est une expression, mais voir al-fath min Allah, c'est mieux, l'ouverture, l'aide d'Allah Azza wa Jal, ben, on va dire que c'est un début de paradis sur terre. Voir l'aide d'Allah, voir la concrétisation de ta confiance en Allah, de ton yaqin, ta conviction en Allah, c'est une partie du paradis qu'on commence à vivre. Les sahaba l'avaient vécu lors de la bataille de Ahzab. Mais comme on a dit tout à l'heure, les épreuves, ça apporte beaucoup, mais il ne faut pas souhaiter les épreuves. Et Allah, dans sa clémence, éprouve les personnes en fonction de leur capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah est hakim, Allah est adl, Allah est latif. Et un des sens les plus profonds ou les plus qui nous interpellent le plus dans cette qualité, la bonté d'Allah al-latif, c'est qu'Allah te prédestine des situations parfois difficiles en fonction de ton niveau spirituel, en fonction de ce que tu peux supporter et en fonction de ce qu'il attend de toi. Et par rapport au degré qu'il souhaite t'attribuer dans le Jannah, ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. C'est pour ça que les plus éprouvés, c'était les prophètes. Ensuite, ceux qui avaient un rang qui s'est rapproché des prophètes. Donc, on voit une personne éprouvée dans sa santé, dans sa famille, des gens qui vivent, Allah musta'an, avec des épreuves mustamir, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal aime ces personnes. Le hadith prophète me dit que quand Allah aime une personne, Allah éprouve la personne. Quand Allah aime une personne, Allah lui accorde la compréhension de la religion. Voilà donc ce qu'Allah accorde aux serviteurs qu'il aime. Le din, tafaqquh fi din, la compréhension de la religion, le sirat al-mustaqim et les difficultés dans ce monde. Les difficultés, c'est ce que nous essayons de fuir, c'est ce que nous ne voulons pas et nous demandons protection à Allah contre les difficultés. Oui, on doit le faire, mais quand Allah a prédestiné pour toi la difficulté, accepte-le avec rida, avec contentement et avec yaqin que cela vient d'Allah Azza wa Jal. Le premier exemple qu'on avait vu dans le chapitre Al-Yaqin wa Tawakkul, la conviction et la confiance en Allah, c'était la bataille de Al-Ahzab. Vous dites tout le temps la bataille, la guerre. Toutes les civilisations ont fait des guerres. La France est devenue France parce qu'il y a eu des guerres. L'Alsace, la Lorraine, vous croyez qu'ils ont eu un boîte bonus? Vous croyez que c'était dans Kinder Surprise, Napoléon a dit, c'est parti, on a eu l'Alsace. Et... non, c'est pas comme ça. Toutes les nations, toutes les civilisations ont eu à se battre et c'était comme ça. Mais qu'Allah protège, que jamais on ait à vivre des situations. C'est-à-dire, le mu'min doit souhaiter la paix. Mais quand ton pays est attaqué, quand ta famille, tes biens sont menacés, tu fais quoi? Al-Ahzab, une des situations où balagatil quloubul hanajir. Si quelqu'un vous met la main à la gorge, vous étrangle. Vous pouvez parler, vous pouvez lire, vous pouvez pas, vous êtes saisi. Et là, c'était pas une force physique, c'est pas quelqu'un qui t'étrangle, c'était la peur. La situation à l'Ahzab, c'était tellement terrible. Être entouré d'ennemis, on le répète pour la quatrième fois, mais c'est important. Et avoir un ennemi qui est en train de te trahir, c'est-à-dire que tu es au front. Et peut-être qu'ils sont en train de tuer ta femme et en train d'égorger vivre tes enfants. Je suis désolé de le dire avec des mots si crus, mais la guerre à cette époque, c'était aussi terrible. Quand Al Yasir, à Makkatul Mukarama, on revient un peu à Makkah, les mouchriquines n'ont pas plaisanté avec le papa, la maman, le fils. Ils ont été tous exécutés parce qu'ils croyaient en Allah. Quand on parle aujourd'hui d'islamophobie et ainsi de suite, les premières personnes à avoir souffert, à avoir été éprouvées de leur foi, c'était les sahabas, 1 million de fois plus que nous. Des milliers de fois plus que nous. Et ils ne se plaignaient jamais. Ils ne se plaignaient jamais. Et une fois, quand ils avaient émis cette... ils en avaient parlé au Prophète, le Prophète dit qu'il y a eu des peuples avant vous qui étaient tellement éprouvés de leur foi qu'on les enterrait vivants jusqu'à leur cou. Et on prenait des brosses. Des pailles, enfin, je dis paille de fer, c'est pas ce que vous faites avec quoi on fait la vaisselle, vous faites pas la vaisselle, mais ce que les femmes font la vaisselle, hein, c'est comme c'est comme des peignes en fer, des crochets, voilà. Et on les grattait la tête jusqu'à faire apparaître le crâne et l'os, jusqu'à ce qu'ils quittent la foi et ne quittaient pas la foi. Les sahabas ont réalisé et ils se sont dit que, khalas. Quand ils demandaient matan Nasrullah, et ils ont réalisé que c'est comme ça que ça avance, les épreuves, les difficultés. Alhamdulillah, à notre époque, on ne vit pas ce genre de difficultés et jamais on ne doit demander à Allah, éprouve-moi pour que j'avance à la foi. Celui qui dit ça, fais attention parce que les affaires, ils peuvent être dangereux. Il y avait un tabi'in, il avait dit ça la dernière fois, pas eu le temps, c'est dans حياة الصحابة يعني استوى التابعين كبديا الصحابة si j'étais vivant à votre époque si j'étais là auprès du prophète صلى الله عليه وسلم j'aurais agi comme un héros j'aurais fait ça il a dit hop 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 il n'a pas dit comme ça mais il a dit attends il dit si tu n'étais pas là à notre époque c'est qu'Allah a décidé que tu ne sois pas là sache que ce qu'on a vécu comme épreuve c'était terrible notre foi était éprouvée à sa limite ce qu'un être humain peut supporter à la limite humaine. C'était terrible. Il y avait une expédition comme ça où le nom ne me revient pas. Je ne sais pas si c'était Tabou ou quelle expédition. Si quelqu'un là, il me dit Barakadnafik, c'était en hiver où il faisait extrêmement froid. Et les Sahaba étaient dans l'obscurité totale. Et le Prophète avait besoin d'un éclaireur. Et le Prophète a fait savoir qu'il aura besoin de quelqu'un pour aller voir l'ennemi, qui position? Mais pas qui position comme en mauricien. Le qui position, c'est quelle est la position de l'ennemi? Qu'est-ce qu'il prépare? Il se repose ou il prépare une attaque? Les Sahaba, ils ont avoué qu'ils avaient tellement froid et c'était tellement difficile que personne ne souhaitait entendre son nom prononcé. Et là, le Prophète avait désigné, je ne sais plus si c'était Abu Huraira, Hudhaifa, va voir l'ennemi. Hein? Coalisés, on y est. Va voir ce que l'ennemi fait. C'est-à-dire que c'était des situations d'épreuves extrêmes. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des compagnons de prophètes ont été éprouvés de cette façon. Jamais dans l'histoire de l'humanité, des hommes, des compagnons de prophètes ont également atteint un tel niveau de iman, de foi. Comme je dis, on n'est pas éprouvé, alhamdoulilah, à ce niveau, mais dans les situations de la vie. Allah ne nous éprouve pas par la perte de nos enfants, de nos biens, de notre épouse, qu'Allah nous protège et qu'Allah nous accorde al-amn wa amanahum min khawf, protection, la tranquillité, ça c'est une ni'ma de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais des fois dans la vie de tous les jours, il y a des épreuves. Et lorsqu'on lit l'histoire des Sahaba al-Ahzab, on ne doit pas écouter comme des contes. Ce n'est pas une histoire à écouter, à raconter aux enfants avant de dormir pour qu'ils fassent de beaux rêves. Ce sont des leçons et des enseignements tirés à mettre en application à notre niveau, de notre vie de tous les jours, face à n'importe quelle épreuve, savoir s'en remettre à Allah Azza wa Jal, la position des hypocrites, mais pas uniquement les hypocrites, parce que si c'était les hypocrites, on se serait dit, je ne suis pas un hypocrite, mais وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا, ceux qui avaient une maladie dans leur cœur, c'est-à-dire la faiblesse spirituelle, manque de conviction, manque de confiance en Allah, eux aussi, ils ont manqué de confiance en Allah. Ils ont pris le même chemin que les hypocrites. Ils disent, ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Le prophète sallam vient nous annoncer la Perse, César, les Romains, et là on ne s'en sort même pas. Donc c'est peut-être, qu'est-ce qu'il nous a dit là? Doute. Alors que les mu'mines, ولما رأى المؤمنون الأحزاب, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. صدق الله ورسوله. Ce que notre prophète a dit, ça c'est la vérité. Ce qui est en train de se passer, ça c'est la réalité, c'est la concrétisation de tout ce qu'il a, que nous a annoncé. Même si la situation elle est contre nous, ça a l'air d'être compliqué, mais on sait que derrière la difficulté, il y a la facilité. C'est énorme quand même. La réaction des sahaba dans des situations où leur vie était en danger, la vie de leurs enfants, des bébés, qui leur vie est en danger, et ils savent s'en remettre à Allah et avoir confiance, yaqin en Allah, à 100%. À Uhud, situation très difficile également. L'après-bataille d'Uhud, c'était à peu près, si je ne me trompe pas, 70 morts parmi les musulmans. Et l'armée était composée de combien de personnes, les croyants? À peu près 700. Et à la base, ça devait être 1000. Après, il y a eu la manifestation des hypocrites. Certainement pour une des premières fois. Où Abdullah ibn Saloul, il a réuni 300 personnes et il a décidé de les retirer de l'armée des croyants. Alors qu'en face, il y avait déjà une armée de 3000 personnes armées jusqu'aux dents. Les Mekwa voulaient en finir avec l'islam. Ils voulaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, leurs femmes, leurs enfants, qu'il n'existe plus une personne qui dit « Allah à Madina al-Munawwara ». Ils sont 1000, 3 fois moins nombreux et beaucoup moins préparés. Ils ne sont pas aussi armés. Mais quoi, c'était une armée, on va dire, régulière. Ils sont 3 fois moins nombreux. Il y a une première épreuve, 300 personnes. Le tiers presque de l'armée va les quitter. Et c'est une grosse épreuve de se rendre compte que parmi tes frères, il y en a qui te trahissent. Avant même le début de la difficulté.
Et il y a eu les épreuves où notre prophète alayhi salat wa salam a été frappé. Il y a eu une pierre qui l'a touché, une de ses dents qui s'est cassée. Il a eu les côtés, comment on pourrait dire ça, un coin, deux morceaux de son casque en fer qui étaient entrés dans sa joue Mubarak. Les ennemis avaient creusé des fossés, des trous. C'était une technique de guerre, ça, pour faire tomber les musulmans qui avancent. Je pense que ça m'est tombé. Et tout ça, c'est biqada illahi wa qadari. Alors, toi, mu'min, s'il t'arrive de chuter un jour, au sens propre ou au sens figuré, plutôt sans figuré, sache que le prophète alayhi salat wa salam est tombé dans un trou profond. Sa dent Mubarak s'est cassée, sa joue était blessée, son visage était rempli de sang. Tout ça, c'est lors de la bataille d'Uhud. Biqada illahi wa qadari. C'était là la décision d'Allah. Et Allah éprouve ce qu'il aime. Et le prophète était l'homme le plus aimé par Allah. Allah ne veut pas du mal pour son Nabi, jamais. Allah voit cette situation très difficile pour lui. C'était un des pires souvenirs de sa vie. Il a témoigné à la fin de sa vie que parmi les moments les plus difficiles qu'il a vécu, c'était lors de la bataille de Uhud. Parmi ces deux moments, c'est Taif et la bataille de Uhud. Ou comme a dit alayhi salatu wassalam, le prophète a vécu ses difficultés, c'était Nabiullah, son sang coulait pour Allah. Donc nous, si dans notre vie, on a des épreuves, des difficultés dans notre santé, la famille, les difficultés qu'on connaît, et chacun y connaît sa vie, d'accord ? Qu'on réalise que ça vient d'Allah et qu'Allah attend de nous une réaction. Il y a eu également la désinformation. La désinformation des médias, comme on dit à notre époque, et ça c'est, en fait, quand vous allumez les informations, c'est écouter la désinformation. Il vous dit tout le contraire de la vérité. Il manipule les esprits. Il manipule les esprits et, comment on appelle ça, le syndrome de Homer Simpson. Il regarde en mangeant des donuts et il croit tout ce qui est raconté à la télé. Et nos enfants regardent, ils croient que le monde est comme ça. Et les femmes regardent les feuilletons brésiliens où... ils pensent que la vie, c'est que ça. Et nous, on regarde PSG, Barcelone et tout. On pense que la vie, c'est ça. Allah, Moussan, rourour, rourour, tromperie, perte de temps, comme il dit en créole, péage de temps. Tadwi'ul waqt. Allah, Moussan, waqtul mu'min. Le temps du croyant, c'est thamine. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui a une importance énorme. Qu'Allah nous donne la possibilité de prendre considération du temps. As-sihatu wal-farar. Le temps et la santé. Il ne faut pas attendre que quand on est plus âgé, qu'on a du mal à se déplacer, on se dit que quand j'étais jeune, je ne venais pas à la salat, j'aurais dû faire telle action. Allah, Moustan. Qu'Allah nous protège. Et vous voyez, à l'inverse, quand quelqu'un a passé sa jeunesse et a grandi jusqu'à sa vieillesse dans le droit chemin, le prophète me dit, hadith authentique, que lorsqu'un homme atteint un certain âge, ou le sens du hadith, il arrive dans une situation où il ne peut plus accomplir ce qu'il accomplissait quand il était jeune et en bonne santé. Allah demande aux anges de continuer à écrire les bonnes actions qu'il accomplissait, même s'il ne le fait plus. Imagine, cher, qu'Allah lui donne longue vie, qu'il peut toujours venir à la masjid. Arrivé à un âge, il sent un petit peu fatigué. Mais durant toute sa vie, 5 salats, premier rang, saum, lundi, jeudi, tahajjud, qiyamul layl, tilawat al-Qur'an, et ainsi de suite. Mais si quelqu'un a une période de sa vie, un moment de sa vie, soit l'âge, soit la santé, il ne peut plus le faire, parce qu'il a ses difficultés, ben ses actions sont écrites tous les jours comme si qu'il le faisait. Voyez donc le karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ça existe des patrons comme ça? Le patron va dire, ouais, érode indemnité, joigne un lien avec, et ainsi de suite. D'accord? Ou tu auras 50% du salaire, et ainsi de suite. D'accord? Mais tu dis à un patron, ça fait 10 ans que je travaille. Maintenant, le corps, il ne donne plus. Le corps, il ne donne plus, un peu fatigué. Donc, je reste à la maison, mais s'il te plaît, n'oublie pas de faire mon virement tous les mois, parce que là-dedans, j'ai beaucoup de bonnes intentions. Mon cœur est propre. Ton cœur est propre et ton compte en banque sera propre aussi. Il n'y a personne, aucun makhlouk qui agit comme ça avec notre créature. Il n'y a que le Khaliq qui, dans l'amour qu'il a pour sa créature, est capable de le récompenser de cette façon. Qu'Allah nous donne la possibilité de mériter cette générosité. Donc, après les difficultés de Uhud, où au début, les musulmans, ils ont gagné du terrain. Et la preuve que la victoire était pour eux, la fitna, c'était le butin. À quel moment l'ennemi abandonne le butin? C'est quand il s'enfuit. Ils ont commencé à quitter le champ de bataille. Et là, les rois, on connaît l'histoire, les rois des archers sont descendus, ainsi de suite. Donc là, il y a eu le grand moment de flottement, de difficulté, où Khalid bin Walid, est venu contourner la Jabal Rumah pour attaquer les musulmans sur un autre front. Et là, il y a eu une désorganisation. Il n'y a rien de pire que quand on n'a plus d'organisation. Et la désinformation, j'ai oublié de compléter, où ils ont dit que Mohammed a été tué. Et les sahaba, ils ont entendu que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Pour eux, c'était pire que perdre leur papa, leur maman, leurs enfants, leurs femmes. C'était l'amour qu'ils avaient pour ça. Donc, ils étaient démunis. Ils ne savaient plus quoi faire. Jusqu'à ce qu'ensuite, il y a eu l'aide d'Allah. Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'ordre du jour, mais ça reste toujours dans la spiritualité, dans notre quête du ilm. Il y a un moment de la bataille d'Uhud qui est magnifique. Ça met en avant le rôle des jeunes. Il dit qu'à un moment donné, il y a une pluie de flèches envoyée par les ennemis en direction du prophète. Le but, c'était quoi? C'était de le tuer. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi une pluie de flèches? Si vous regardez les films romains, les gladiateurs, des trucs comme ça, une pluie de flèches, c'est quand on ne voit plus le soleil. Et les flèches tombent par centaines. Et là, qu'est-ce que tu as à faire? Courir ou sauter quoi? Il n'a pas à courir. C'est-à-dire que tu es mort, tu as un périmètre, un diamètre, on va dire, je ne sais pas si périmètre ou diamètre, professeur, ça va mieux, 100 mètres carrés, les carrés c'est plus simple. C'est 100 mètres carrés, tu es mort. Tu ne peux plus t'enfuir. Seule solution, c'est s'abriter. Et dans les livres de Kutub Sirah, il est décrit que les jeunes sahaba, ils ont fait un bouclier humain autour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour que eux, ils soient tués, mais pas Nabiullah. Ça, c'est vraiment au degré de Hubbun Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne peut pas imaginer. Et dans l'histoire des civilisations, dans l'histoire des rois, des dirigeants, jamais on a trouvé des personnes aussi fidèles à leurs dirigeants que les sahaba pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde la muhabba pour les sahaba et qu'Allah nous accorde un peu de leur qualité et qu'Allah nous protège des personnes qui osent porter atteinte à l'honneur des sahaba. Donc quand ces situations difficiles étaient terminées, il y a eu le verset 173 de la sourate Al-Imran. Il est expliqué que après ces étapes-là, min ba'di ma asabahum al-qarh, donc on pourrait rester fidèle. Je sais, mais où il y avait la traduction du verset pour rester fidèle à la traduction. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Reprends un peu depuis le début. Ceux qui, quoique atteints de blessures, c'est-à-dire après ces situations difficiles, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. C'est à ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. On essaie de leur attirer vers la crainte des créatures. Cela accrut leur foi. Situation de stress, on pense qu'on va démoraliser les troupes. Bien au contraire, et c'est là que le iman augmente. Et il dit, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Fan qalabu bi ni'matim. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, parce que c'est Allah qui décide si quelque chose t'atteint ou non. La situation était contre eux. Ils ont fait confiance en Allah. Allah a décrété que rien ne les touche. Et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et on se dit que c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. La peur, c'est Shaitan qui met de ton cœur. La peur, c'est Shaitan qui met de ton cœur. Parce que Shaitan joue avec la peur. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi. C'est Allah qui parle, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc, dans cette situation, les sahaba ont été éprouvés une seconde fois après la bataille d'Uhud. Ils ont répondu présent, ils étaient prêts à donner encore, à protéger encore le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à résister à Abu Sufyan, à défendre les murs de Médine, à défendre Al-Madina Al-Munawwara, ay anna Abu Sufyan wa ma'ahu mimman baqiya. Abu Sufyan et ceux qui étaient encore là, min kubara, parmi les grands des les chefs de Quraysh, jama'u lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont réunis encore à la fin pour lutter contre le prophète alayhi salatu wa salam. Et là, il y a eu donc cette nouvelle. Ayez crainte, ô croyants, ça va être un moment difficile. Et au contraire, ils n'ont pas eu peur. Bal, izdad ou iman, alors iman augmenté. Et en commentaire, il dit, li anna al-mu'mina kullama ijtaddat bihi al-azmat. Le mu'min, le vrai croyant, chaque fois qu'il vit des situations de difficulté, c'est là que son iman augmente. Pourquoi ? Comment est-ce que cette équation aboutit ? C'est parce que quand la situation devient difficile, il s'en remet de plus en plus à Allah. Et donc son iman augmente. لِأَنَّهُ يُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Parce que le croyant, et là on a une définition de la confiance en Allah. Confiance en Allah, ce n'est pas juste que Allah il fait tout et puis on verra. Non, c'est tu sais que avec, c'est que l'aide d'Allah vient avec la patience. L'ouverture vient après les difficultés et après les épreuves, Allah envoie la facilité. Et quelle fut leur réaction ? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, qu'Allah, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Allah nous suffit, ça veut dire qu'on n'a besoin de personne. Et il est notre meilleur garant, c'est-à-dire notre vie est entre ses mains. Et c'est Allah qui décrète ce qui va nous arriver, tout est déjà prédestiné. On fait les efforts comme Allah attend de nous et on a confiance en la générosité d'Allah Azza wa Jal. Huwa al-kafi jalla jalla azza wa jal ni'ma al-mawla ni'ma al-wakil ni'ma al-nasir huwa al-karim ajwad al-ajwadin, qu'il est le clément, le miséricordieux, celui qui accorde son aide, celui qui vient en aide aux croyants, et cela nécessite une connaissance sur les noms d'Allah Azza wa Jal. Le mu'min, comment il s'accroche à Allah Azza wa Jal ? Métaphore, comment il s'en remet à Allah dans les situations de difficulté ? C'est en connaissant son Seigneur. Plus on a travaillé notre iman billah, ben on connaît la force, la puissance d'Allah. On connaît comment Allah agit dans la sunna d'Allah avec les prophètes, avec ceux qui sont venus avant nous. Et là, on arrive à se mettre dans la continuité des personnes éprouvées et à savoir que jamais Allah n'abandonne celui qui a confiance en lui, en prenant l'exemple des sahaba à Ahzab, en prenant l'exemple des sahaba lors de Uhud et dans toutes les situations de la vie. « فَإِذَا تَجَهَ الْإِنسَانُ إِلَى اللَّهِ فِي أُمُورِهِ » أعانه الله وساعده وتولاه. Si, ô musulman, tu arrives à t'en remettre à Allah, à lever les mains, à implorer son aide, tu fais deux unités de prière et tu demandes à Allah son aide, même si le médecin t'a annoncé une nouvelle que tu ne voulais pas entendre, même si tu as entendu ce qui t'attriste, même si tu vois ce qui t'accable, avant d'aller vers les créatures, tu t'en remets à celui qui a créé la situation. Et celui qui s'en remet à Allah, il obtiendra l'aide d'Allah Azza wa Jal. Walakin al-bala min bani Adam, le manquement et la problématique chez l'être humain, c'est lorsqu'il fait i'timad ala al-umur al-madiyya, lorsqu'il s'en remet au asbab uniquement. Lorsqu'il s'en remet aux créatures, à sa force, à son potentiel, lorsqu'il juge les situations avec son intelligence, son cerveau, il les décrypte comme il le comprend. Et il oublie la décision d'Allah Azza wa Jal. Si les sahaba avaient réfléchi uniquement avec leur esprit cartésien et avec leur cohérence, ils se seraient dit, voilà notre prophète, l'aimé d'Allah, le protégé d'Allah, Mustafa, celui qui a été choisi par Allah. Tout ce qui lui arrive là, comment il est blessé, il saigne, et ainsi de suite. Non, 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 c'est pas possible. Celui qui est protégé par Allah, ben Allah le garde sous sa protection. Rien ne peut l'atteindre. Et c'est un exemple pour nous que voilà un homme protégé. Mais ils n'ont pas réagi avec leur logique humaine. Ils ont réagi avec leur iman, billah, leur conviction sur les textes, sur les versets du Coran. Et donc, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ. Et quand ils se sont préparés à lutter, à résister contre Abu Sufyan une deuxième fois, en finalité, il n'y a plus d'offensive, mais comme ils ont montré husn al-niyya, une intention sincère et ferme de répondre présent, de défendre Madina, de défendre le prophète sallam, de défendre leur famille, leurs enfants et les innocents, ben, ils ont obtenu les récompenses de la part d'Allah parce qu'ils ont réussi l'épreuve. Et à la fin, que ces shaitans et ses alliés qui essaient de mettre la peur dans vos cœurs. Fala takhafuhum wa khafuni. Le mu'min doit éprouver uniquement la crainte d'Allah. La chose qui doit nous faire vraiment peur, c'est si Allah n'est plus satisfait de nous. Si Allah ne m'aime plus. Si Allah décide de m'éloigner. Si je ne fais plus partie des gens qu'Allah a choisi à aimer, a choisi pour se prosterner devant lui. Ça, c'est la crainte du mu'min. La crainte du mu'min, ce n'est pas ce qui lui arrive. La crainte du mu'min, ce n'est pas est-ce que je mange demain ou il n'y aura plus d'argent. Ça, c'est le rizq est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. C'est pas parce qu'il va m'arriver un problème où les gens vont me faire du mal. On dit encore un hadith, il y a de lequel il est commenté un tafsir et des hadiths qui commentent donc un verset du Coran, à propos duquel il est cité qu'Allah crée des anges qui protègent l'être humain de tout ce qui est mal. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ Si quelqu'un complète le verset, يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ Le sens du verset, qu'Allah a créé des anges qui restent auprès de toi. Comme on, un peu l'expression, comme on dit, ange gardien. Hein? Ça va de ce sens, mais c'est pas... D'accord? Et ces anges protègent l'être humain contre tout ce qui ne lui a pas été destiné. Donc, comment il dit que, il a expliqué que lorsqu'il lui arrive une difficulté qui émane du décret d'Allah, les anges s'écartent pour que la personne soit atteinte par le décret d'Allah. Ça veut bien dire que ce n'est pas une question de asbab, ce n'est pas une question de protection, ce n'est pas que tu prends des gardes du corps. Il n'y a pas meilleur garde du corps que des anges qui te protègent contre le mal des hommes et le mal qui n'est pas visible également. Ça veut dire que tu demandes droit à Allah, tu demandes protection à celui qui envoie les difficultés, qui envoie les épreuves. Hada. Donc, فَلَا تَخَافُوا مَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Si vous êtes croyant, ça veut dire que ça fait partie des qualités propres et intrinsèques aux croyants que d'avoir la crainte d'Allah. C'est également une qualité du croyant que d'avoir confiance en Allah et de savoir s'en remettre à Allah. Et les deux parties du verset sont juxtaposées. يَاكَ نَعْبُدْ وَيَاكَ نَسْتَعِينَ Le ibada, rien à dire sur ibada, on sait l'importance. Et la confiance, savoir s'en remettre à Allah, chercher secours auprès d'Allah, c'est également la réaction du mu'min. Et vous rappelez, ça c'est le résultat de l'éducation que le prophète a donné à Ibn Abbas. Ihfadillaha yahfaduk, ihfadillaha tajidu tijahak. Crains Allah, Allah te protège. Pratique le din, sois un bon mu'min, tu as la protection d'Allah. Protège le din d'Allah, Allah sera toujours avec toi. Tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Allah. C'est-à-dire que cette faculté à s'en remettre à Allah, c'est l'éducation que le prophète a donné aux enfants, qu'Allah nous accorde cette qualité. Bien sûr, j'aimerais qu'on éclaircisse bien les choses, parce qu'on est à une époque où il y a, pas de vous, hein, mais comme on enregistre les programmes, ça va un peu partout, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Il y a des fois où quelqu'un entend un imam, Mufundi, parler de la bataille d'Uhud et de la bataille d'Ahzab. Il dit, ah, ils vont parler de la djihad, de la guerre, de la mosquée. Il encourage. Si on n'arrive pas à comprendre, il faut aller écouter autre chose. Je dis ça pour les gens mal intentionnés qui pensent que si on a parlé de Uhud, de Ahzab ou de Badr, c'est qu'il est un penchant pour la guerre. Yahri, on est en train de parler des événements, des difficultés, des épreuves que ce qu'un homme peut vivre dans la limite de la patience humaine et comment les Sahaba l'ont vécu. Et nous, à notre niveau, il n'a jamais été dit, elle va provoquer une bataille, na'oud billah, et qu'Allah nous protège de cette mauvaise compréhension, et qu'Allah nous protège des personnes mal intentionnées qui essaient de trouver le mal dans le bien. Il y en a qui trouvent, parce que ce sont les alliés du diable. Shaitan a des amis, a des alliés parmi les êtres humains, et c'est des personnes qui font les fitnas. Notre objectif, c'est de voir comment les sahaba, encore une fois, ont réagi dans des situations de stress extrême. Et comment est-ce que la force spirituelle te permet de t'en remettre à Allah et de trouver la tranquillité et de voir l'aide d'Allah. Quand aujourd'hui tu es éprouvé par la pauvreté, par la perte d'un proche, par la maladie, par des oppresseurs, souviens-toi que les sahaba ont eu des épreuves plus lourdes où leur vie est en danger. Ils ont fait confiance en Allah, ils ont trouvé l'aide d'Allah. Pareil, dans notre vie de tous les jours, dans notre société où on est en paix avec tout le monde, mashallah, les difficultés sont là. Sachons vivre les difficultés avec sérénité et avec confiance en Allah. Sachons que nous devons donc retenir que tout vient d'Allah. Levons les mains et que nous arrivons à demander à Allah Azza wa Jal son aide dans toutes les situations. Matawfiqillah billah. Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum.